Au fond, en travaillant sur notre littérature, j'essaierai de montrer ce qu'est ce projet, mais aussi en quoi ce projet nous renseigne sur la façon que Barthes avait de travailler, quel que soit l'objet auquel il s'attelait. Et cela est d'autant plus vrai que le projet Notre littérature se donne comme une réflexion sur la littérature française et sur l'histoire littéraire. L'histoire littéraire, vous le savez, peut avoir des formes extrêmement différentes. La Gare des Michards, mais c'est aussi Fumaroli ou Foucault, qui tous pratiquent une forme d'histoire littéraire. Ou Viala, elles sont toutes très différentes les unes des autres, mais ce sont des histoires littéraires. De quoi s'agit-il? Ce sont des histoires qui replacent un texte dans son contexte. L'histoire littéraire a un principe fondamental, lire un texte dans son contexte historique. Si vous voulez lire Racine, replacez-le dans le XVIIIe siècle. Ce que nous faisons tous, au moins au début du travail. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de l'histoire littéraire. Or, le terme clé dans l'histoire littéraire, quel que soit le type pratiqué, c'est le mot de contexte. Or, il me semble que le fichier, dans son principe général, pose la question du contexte, parce que tout est dans un contexte, bien évidemment, mais les fiches elles-mêmes posent cette question du contexte, et de façon très complexe. Alors, d'abord, les fiches, et ce sont des truismes, s'inscrivent dans un contexte temporel. Elles ont été écrites à un moment donné de la vie de Barthes. C'est un truisme. Elles s'inscrivent aussi dans un contexte matériel. Les fiches figurent dans des enveloppes, dans des boîtes, qui elles-mêmes figurent dans d'autres ensembles. Donc il y a un contexte matériel très, très évident, donc, sur lequel je ne vais pas insister. Mais ce qui est passionnant dans le fichier, c'est que l'on peut prendre une fiche et la changer de contexte. On peut la changer d'enveloppe, on peut la changer de boîte, et par là même, on la change d'usage, on lui change son usage, et on change d'une certaine manière sa signification. Donc, le fichier, c'est vraiment un objet qui permet de réfléchir à des travaux de contextualisation, de décontextualisation et de recontextualisation quand on fait promener la fiche d'un endroit à un autre. Barthes brassait ses fiches comme un jeu de cartes, et quand il écrivait un livre, il prélevait dans son fichier général les fiches dont il avait besoin pour écrire tel ou tel livre. Et en étant déplacé, parfois d'une dizaine d'années, ces fiches trouvaient une nouvelle fonction et par là même une nouvelle signification. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer, comment ce projet sur l'histoire littéraire, donc sur un art du contexte en quelque sorte, est une pratique qui permet de comprendre le fichier comme un lieu qui lui-même permet de réfléchir au contexte. C'est le plaisir de la génétique, c'est qu'elle pose des énigmes, et que l'on est appelé comme ça à résoudre ces énigmes comme une sorte de Sherlock Holmes, des bibliothèques et des manuscrits. La première énigme que pose ce projet Notre littérature, c'est bien sûr de savoir quand il a été constitué, à quelle date à peu près on peut le placer. Alors, j'ai mené ma petite enquête en regardant un peu ce qu'il y avait autour. C'est le plaisir de la recherche génétique, enfin, un des plaisirs de la recherche génétique. Alors, il y a un fichier Notre littérature, c'est le nom sur la boîte, et il a une enveloppe Notre littérature. Vous voyez, l'énigme commence à s'épaissir. Et en comparant le fichier et en comparant toutes les enveloppes qui sont dans le fichier, on arrive peu à peu à résoudre l'énigme et à savoir à peu près à quelle époque Barthes a écrit cette enveloppe, Notre littérature. Les fiches Notre littérature côtoient des fiches, tout est un peu mélangé, un bon nombre de fiches consacrées à la relation de Barthes avec Romaric Sulzer-Buel. Cet ami de Barthes, les deux hommes se sont rencontrés à l'hiver 75. Donc déjà, on voit qu'on s'achemine vers la seconde moitié des années 70. Par ailleurs, on trouve juste à côté, mélangé parfois, dans un beau fouillis de fiches, un certain nombre de fiches, une dizaine, dans lesquelles Barthes a tenu, la chronique de son élection au Collège de France, en faisant une fiche par électeur, en notant les coups de fil qu'il avait passés et les chances qu'il avait d'avoir la voix de ses électeurs. On aurait dit un vaudeville de Flair et Caillavé et une élection à l'Académie française. Il y avait quelque chose de très drôle. Après tout, nous faisons tout cela quand nous candidatons à un poste. On essaie de peser un peu les chances que nous avons. Barthes avait tenu, alors il y a une fiche, Jacqueline de Romilly, et je peux vous dire, m'a dit qu'elle ne ferait rien contre moi. Bon, ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle a voté pour lui, si vous voulez. Voilà, alors, ça c'est les petits potins de la vie universitaire, c'est les petits plaisirs de la génétique. Or, l'élection de Barthes au Collège de France est 76. Voyez-vous, l'étau temporel se resserre. Manifestement, c'est dans les années 75-76 que le fichier Notre littérature a pu être constitué. D'autant plus que dans ces fiches, dans cette enveloppe, on trouve un grand nombre de fiches qui portent sur le banquet de Platon, dans la traduction de Meunier. Or, les spécialistes de Barthes le savent bien, Barthes va s'intéresser avec beaucoup d'insistance à Platon et au banquet quand il écrit, quand il travaille son séminaire sur le discours amoureux, de 74 à 76, et quand il commence à écrire fragments d'un discours amoureux. Donc vous voyez, 75, 74, 76, 76, nous nous rapprochons, et avec une déduction, un art de la déduction qui va vous impressionner, bien sûr, j'en déduis que notre littérature a dû être conçue, que les fiches ont dû être rassemblées, grosso modo, autour de l'année 76. Nous voilà déjà rassurés sur une première date. Mais bien sûr, tout est beaucoup plus compliqué, parce que si le fichier a été constitué vers 76, si Barthes a prélevé un certain nombre de fiches dans l'ensemble Platon, qui servait au discours amoureux, on remarque des fiches beaucoup plus anciennes qui ont été collées, qui ont été mises dans la fameuse enveloppe. Et ces fiches rappellent incontestablement un texte de 1969 intitulé « Réflexion sur un manuel » et publié dans le colloque, les actes du colloque de Cerisy de 69, « L'enseignement de la littérature ». Vous connaissez ce texte, hein ? Barthes réfléchit à un manuel scolaire d'histoire de la littérature qui est manifestement, même si ce n'est pas dit, le Lagarde et Michard. Donc, le projet de 76, qui rassemble des fiches sur Platon, rassemble également des fiches beaucoup plus anciennes, donc décontextualisées, hein, pour reprendre le terme que j'employais, et qui ont déjà servi à Barthes pour écrire son article « Réflexion sur un manuel ». Voilà. On peut se demander ce que Barthes allait bien faire de différent. Il n'allait bien sûr pas répéter son article de 69, il allait utiliser ses fiches, les confronter à d'autres fiches, mais qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? C'est un petit peu ce que je voudrais vous montrer. Donc, je me résume, le projet Notre littérature est certainement un projet de 1976, il rassemble des fiches de 74, 75, 76 sur Platon et des fiches beaucoup plus anciennes qui portent sur un manuel de littérature et un article que Barthes a déjà écrit. On a le sentiment, d'une certaine manière, que ce projet, notre littérature, Barthes l'a déjà fait, et que ce qu'il prévoit est quelque chose d'un petit peu démodé, qui a déjà eu lieu. On se demande un peu ce que va faire Barthes, va-t-il réécrire, il n'y a pas de raison qu'il le fasse, cet article de 1969. Alors, je voudrais essayer de vous montrer que non, bien sûr, c'est qu'il va partir de ses fiches, mais pour aller plus loin. Alors, on retrouve dans le projet de 76, maintenant je dis le projet de 76, toute une série d'éléments qui reprennent incontestablement le bel article de 69 que vous connaissez bien, en particulier les Barthésiens. On retrouve les grands axes de la problématique et cette critique du classico-centrisme qui faisait l'épine dorsale de l'article. Je rappelle pour mémoire le contenu des critiques que Barthes adresse au manuel de littérature, peut-être le Lagarde et Michard et d'autres de la même époque et même antérieure. Première remarque, c'est que la littérature n'existe que par rapport à l'enseignement. Vous connaissez cette fameuse formule, la littérature, c'est ce qui s'enseigne. Et on retrouve des fiches qui vont manifestement dans ce sens-là. Je ne développe pas parce que tout cela est très connu. Deuxième caractéristique de cette critique ou de cette analyse, c'est une critique du lansonisme et de certains aspects du lansonisme, en particulier une forme de nationalisme. On sent autour de notre littérature nationale, mais il faut le dire, un nationalisme, et ça c'est moi qui fais ce commentaire, un nationalisme non xénophobe, souriant. On parle beaucoup de Lanson, on ne le lit pas assez. L'histoire de la littérature de Lanson est nationale, la France y est exaltée, la francité y est présentée, mais je dirais dans un miroir où la France se voit sous son meilleur jour, c'est-à-dire une France ouverte, éclairée, modérée, qui ne ferme jamais ses frontières. Vous savez ce que dit Lanson, la littérature française a intérêt à ouvrir sur les littératures étrangères parce que ces littératures permettent au génie français de se révéler. Par exemple, au XVIe siècle, on laisse entrer la grande poésie italienne, on pense à Pétrarque, et qu'est-ce que va produire cette entrée de la littérature italienne? Eh bien, la création de la grande poésie française, Ronsard, Dubellay, etc. Donc, voyez-vous, il y a une sorte de nationalisme, je dirais, modéré, heureux, tempéré, qui, après tout, il faut saluer en des temps où le nationalisme n'est pas toujours sympathique. Troisième grand élément de cette critique de nos histoires de la littérature, eh bien, c'est le fameux classico-centrisme. Au fond, nous avons tendance à placer le XVIIe siècle au centre même de notre histoire, à en faire comment dire, l'élément le plus important, dans un jeu d'opposition, note Barthes, pardon, qui n'est pas l'opposition au romantisme, mais l'opposition au repoussoir que constituent le baroque et la préciosité. Et souvenez-vous des cours que nous avons reçus au lycée, on nous présentait la préciosité grâce ou à travers les précieuses ridicules, toujours d'une manière un peu péjorative. Et nous sommes un peu les héritiers de cela. Donc, un classico-centrisme qui place le classicisme, c'est-à-dire le siècle de Louis XIV, au centre du génie français. Et enfin, dernière grande caractéristique, c'est une exaltation de l'expressivité. Au fond, la littérature exprime le monde, son époque, son auteur. La littérature est profondément mimétique et c'est tout le jeu des causalités et des déterminismes qui font les beaux jours du lansonisme. Tout cela aboutit à un éloge de la sincérité opposée à la rhétorique. Quand on fait trop de rhétorique, on est dans le mensonge. Le cœur parle de façon beaucoup plus nue. Après tout, c'est ce que nous dit Alceste quand il chante la chanson du roi Henri, opposée aux affetteries de Trissotin. Et pas Trissotin, c'est Oronte dans le Misanthrope. Donc voici grosso modo la grande armature de la problématique de Barthes. La littérature s'enseigne, la littérature relève d'un nationalisme tempéré, elle exalte un classico-centrisme qui se fonde sur une loi qui est celle de la causalité et qui est celle de l'expressivité de l'écrivain. Bon, donc, d'une certaine manière, j'étais un petit peu long là-dessus, excusez-moi, rien de neuf par rapport à l'article de 69. Et le projet reprend ces éléments assez longuement dans au moins deux parties sur trois. Alors, pourtant, je voudrais vous montrer que ce projet de 76, c'est bien un projet de 76 et que ce n'est pas la simple reprise d'un article de 69. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce que Barthes va faire de ces fiches? Tout simplement parce que même si l'article reprend énormément d'éléments des fiches, en particulier la description de la salle Louis-Liard. Vous savez, à la Sorbonne, la salle Louis-Liard ne propose que des portraits d'écrivains classiques et de Richelieu, bien évidemment. Bon, on trouve cette référence dans l'article, on la trouve dans le fichier. Mais il y a toute une série de fiches qui n'ont pas été actualisées par Barthes dans son article, qu'il n'a pas utilisées. Et on trouve dans les fiches des aspects qu'il a laissés de côté et que sans doute il voulait faire remonter à la surface pour faire évoluer sa pensée. Alors voyons un petit peu ce que Barthes n'a pas utilisé dans son fichier en 69 et ce que peut-être il avait l'intention d'utiliser en 76. L'article de 69, si vous en souvenez, est extrêmement mesuré de ton. Ce n'est pas du tout une charge contre Lagarde et Michard. C'est une analyse critique, mais pas du tout une charge contre ce manuel avec lequel nous avons été souvent formés. Le Lagarde et Michard, de grande qualité, je trouve, en particulier, il est très contestable dans son analyse, mais il a de très grandes qualités pédagogiques, il est très clair. C'est déjà une immense qualité, je trouve, pour un manuel. C'est un commentaire que je fais. Donc, il ne s'agit pas d'attaquer le Lagarde et Michard, mais d'en rendre compte, c'est ce que fait Barthes. Manifestement, le projet de notre littérature aurait eu un ton beaucoup plus passionné, beaucoup plus pathétique, mais pas du tout, là encore, comme une charge, mais plutôt comme une défense. Parce que qu'est-ce qui se passe de 69 à 76? Je crois que le statut de la littérature a changé. Si en 69, la littérature en France est une institution qu'il fallait déconstruire, pour employer un terme trop galvaudé, en 76, ces positions étaient largement entamées. Et d'une certaine manière, quand on attaque les grands manuels et les manuels d'histoire de la littérature, on peut aussi attaquer la littérature et remarquer que la littérature n'a plus les mêmes positions qu'il y a 10 ans. Autrement dit, on voit très très bien dans le fichier toute une série d'éléments qui n'ont pas été actualisés dans le texte de 69 et qui est une sorte de crainte de l'effacement de la littérature, une sorte de nostalgie dont on trouve des traces dans de nombreux articles de la dernière partie de la vie de Barthes. L'idée selon laquelle, on le voit très souvent dans la préparation du roman, selon laquelle il y aurait non pas une crise de la langue, mais une crise de l'amour de la langue, la peur de voir la littérature quitter les devants de la scène. Donc, cette dimension d'inquiétude à l'égard de l'histoire de la littérature et de la littérature apparaissait déjà dans le fichier de 69, n'était pas actualisé, et je fais l'hypothèse que c'est peut-être un élément que Barthes aurait actualisé. Je voudrais prendre quelques exemples pour ne pas vous demander de me croire sur parole. L'usage, par exemple, du possessif « notre littérature ». Le livre devait s'intituler « Notre littérature » alors que l'article s'intitulait « Réflexion sur un manuel ». Or, dans les fiches de 69, les marques du possessif sont constantes. Le « nous », le notre, le nôtre sont constamment dans le texte. Cela ne sera pas repris véritablement dans l'article, et je crois que cet aspect-là va être repris ou aurait été repris dans le livre sur le projet Notre littérature. Parce que dire notre littérature, ce n'est pas dire réflexion sur un manuel. C'est quelque chose de beaucoup plus. Que signifie le nôtre ? Le nôtre dit d'abord que nous parlerons de la littérature française, que nous en parlerons à des Français, et que nous parlerons à des Français de la littérature française qui ont suivi les mêmes cours, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il y a aussi dans notre littérature, incontestablement, une dimension affective. Notre littérature, c'est aussi, sous-entendu, celle à laquelle nous tenons malgré tout, malgré quelques dérives dans son enseignement. Il me semble que le possessif témoigne, actualisé en 76, virtuel en 69, une implication affective de celui qui écrit. Autre exemple, c'est le pastiche, le goût du pastiche. Vous le savez, pasticher, c'est se moquer, surtout quand c'est un pastiche qui tend vers la parodie. Mais nous le savons aussi depuis Proust et depuis Rebou et Muller, et depuis tous les pastiches que l'on peut lire, le pastiche est aussi un acte d'amour. Alors ce qui me frappe, c'est que dans les fiches de 69, il y a des pastiches qui ne sont pas repris dans l'article, puisqu'il fallait avoir une attitude beaucoup plus distante. Donc comme si Barthes ne voulait pas se laisser aller à la sentimentalité du pastiche, et il me semble que cette sentimentalité-là aurait été réactualisée en 76. Je vous donne un seul exemple. Voici ce que l'on lit dans une des fiches, et je vous montrerai ce qu'elle est devenue dans l'article. La fiche. Tous les Français et leurs historiens ont pour la préciosité ou le baroque les yeux de Molière, Boileau, La Bruyère, la secte façonnière. C'est la citation Boileau. Je crois que c'est de Boileau. Bon, je ne sais pas si tous mes étudiants verraient l'allusion. Avoir les yeux d'eux, il est bien évident que pour un lecteur de 69 et pour un homme ou une femme de ma génération, c'est une évidence, c'est Boileau. En vain contre le Cid, un ministre se ligue. Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. Donc, tout lecteur à l'époque entend le clin d'œil du côté de Boileau. Alors, c'est un procédé que Barthes utilise très souvent dans les mythologies, par exemple. Les mythologies sont nourries de culture scolaire. Lisez les mythologies ainsi, La Bruyère est constamment présent, et vous avez les fameux parallélismes, un tel peint X comme il devrait être, et voilà, bon, c'est La Bruyère, c'est La Bruyère, ce sont les caractères, etc. Donc, le goût du pastiche que Barthes a beaucoup pratiqué dans mythologie, il le pratique encore dans le fichier. Mais voici ce que cette même fiche donne dans l'article. Tous les Français, à travers leur enseignement scolaire, ont sur la préciosité le même jugement et le même regard que Boileau, Molière ou La Bruyère. Même idée, la référence aux deux vers de Boileau est tombée à la trappe. Pour quelle raison ? Je pense parce que Barthes voulait créer un effet de distance, voulait ne pas imposer une affectivité qui était dans les fiches et qui, à mon avis, aurait été réactualisée en 76 dans le projet Notre littérature. Autre fiche qui me paraît intéressante, et que Barthes n'a pas du tout utilisé dans son article, et que peut-être il aurait utilisé plus tard. À propos de Malherbe, décidément, Malherbe sert beaucoup. Malherbe, peut-être le premier à avoir eu une grande et constante passion, l'art littéraire. Bon, Malherbe, le premier des grands écrivains passionnés, des premiers engagés dans la littérature, et non pas simplement un fonctionnaire des princes et de l'Église. Bon, on peut compter sur cette idée, mais en tout cas, il est très intéressant de cette réhabilitation de Malherbe par Barthes comme un écrivain. Alors cette fiche n'apparaît pas du tout dans l'article. Et je la mettrai en regard avec une fiche que j'ai trouvée dans le fichier vert. Elle est magnifique. Idée de l'apparition d'une fétichisation historique de la littérature. L'amour, le désir, la sacralisation de la littérature comme cause, on vit ardemment, exclusivement pour elle. Les Goncourt, Flaubert, etc. Et Barthes termine un peu moi. En un sens. Voilà. Alors, on est passé de Malherbe à la modernité, les Goncourt, les Flaubert, et à Barthes dans cette espèce de passion pour la littérature qui conduit de « Et Malherbe vint » à « Et Barthes écrit cette même passion sur cette littérature ». Ces éléments apparaissent dans les fiches, ils n'apparaissent pas dans l'article. Je crois que cela est assez symptomatique de ce que Barthes aurait valorisé, me semble-t-il, dans son projet. D'autant plus que la troisième partie du plan, je vous ai dit que les deux premières étaient très semblables à l'article. La troisième partie du plan insiste sur la qualité, les qualités, l'apport des histoires littéraires à l'Alençon. Et en particulier, la troisième partie est structurée autour de trois termes. Négativité, alors ce sont les éléments négatifs, vous l'auriez compris, la figure du sujet, l'expressivité. Mais vous avez ensuite une amélioration, ambiguïté, donc c'est ce qui est à la fois bien et mal, hein, la copie, la vocation, le travail. Et puis il y a positivité, les éléments véritablement à retenir de ces histoires littéraires, hein, la frappe, le texte tissu. Donc Barthes a tiré dans son projet des éléments positifs de l'histoire littéraire à l'Alençon que dans son article, il n'avait pas valorisé. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps. Il me semble que cette dimension pathétique, cet amour de la littérature aurait sans doute constitué, et ce n'est pas étonnant quand on lit le Barthes de cette époque-là et quand on lit tout Barthes, aurait sans doute constitué un des éléments fondamentaux de ce projet Notre littérature. Mais il y en a un autre, tout aussi important à mon sens, que je voudrais mettre en valeur devant vous et qui est peut-être plus contestable et qui demandera de ma part une argumentation plus solide et plus fine. D'une certaine manière, il me semble que le projet Notre littérature pourrait renvoyer dos à dos l'Anson et la modernité, le Lagarde et Michard et le degré zéro de l'écriture. D'une certaine manière, Barthes réglerait ses comptes, ou solderait ses comptes plutôt, aussi bien avec l'histoire littéraire à l'Anson qu'avec une conception du temps qui est propre à la modernité. Et il me semble que Notre littérature, ce serait le salut à la fois à l'Anson et d'une certaine manière à une certaine forme, j'emploie beaucoup le mot certain, de modernité. Alors voyons un petit peu comment on peut organiser tout cela, comment on peut essayer de voir comment on peut renvoyer dos à dos, avec toutes les différences bien sûr, l'Anson et la modernité, les mettre dans le même sac. Audacieux, n'est-ce pas, comme entreprise, c'est ce que je voudrais essayer de faire maintenant. Au fond, malgré les immenses différences, je suis bien d'accord, il y a des points communs dont peut-être Barthes ne veut plus au moment où il écrit le projet Notre littérature. Au fond, le lansonisme et la modernité ont une conception du temps commune, qui est celle d'un temps vectorisé, d'un temps qui est, un temps qui avance, qui va quelque part, et qui est centré. Pour Lanson, la littérature française a un centre qui est le classicisme. L'histoire a des précurseurs qui vont vers le classicisme et ensuite il y a les successeurs du classicisme qui vont utiliser à leur manière les grandes leçons de ce génie français qui a été donné par Racine. C'est une conception très centrée de l'histoire et qui suppose un temps mollement vectorisé, je dirais. On ne peut pas dire qu'il y a une philosophie de l'histoire chez Lanson, mais il y a une pensée du temps organisée. On retrouve une même philosophie vectorisée du temps avec une même volonté de centrer chez les modernes. Alors, prenez l'exemple dans l'avant-propos des Essais critiques. Barthes fait allusion à Lucien Febvre et rappelle que Lucien Febvre préconisait de chercher un repère central d'où le mouvement puisse sembler irradié avant et après. On prend une date, un événement, et on essaie de construire le siècle autour de cet événement. Et très souvent dans l'œuvre de Barthes, moderne, on trouve chez lui la volonté de trouver un centre à partir duquel rayonne ou à partir duquel l'histoire prend une signification. Par exemple, c'est la Révolution française, pour Michelet. L'histoire tend vers la Révolution et ensuite accomplit les promesses de la Révolution. Pour Barthes, dans le degré zéro de l'écriture, le centre, c'est l'année 1848, c'est-à-dire au fond, le début de la mauvaise conscience bourgeoise. La bourgeoisie était triomphante jusqu'en 1848, et après, elle entre dans la mauvaise conscience et la nécessité de compenser par l'artisanat du style cette mauvaise conscience. Autre rupture, ce goût de la rupture. Je pense à Kristeva, Révolution du langage poétique, cette fois-ci, c'est Mallarmé qui sert de date pivot. Ce n'est pas Les Fleurs du Mal, ce n'est pas Rimbaud, non, c'est Mallarmé qui sert de centre à partir duquel s'organise toute l'histoire de la littérature. Donc, voyez-vous, bien sûr, il y a un peu de provocation de ma part quand je dis que Lanson et Kristeva, même combat, c'est un peu rapide. Mais il y a au moins en commun une pensée du temps, une pensée organisée, avec la volonté de mettre au cœur de l'histoire, qu'elle soit littéraire, politique ou sociale, un événement à partir duquel tout irradie. Et je dirais que stylistiquement, là encore la citation dit beaucoup de choses, dans les fiches, on a peut-être une preuve de ce que j'annonce, c'est un nouveau pastiche. Vous connaissez la fameuse phrase de Boileau, décidément Boileau, fait de l'usage, « Et Malherbe vint ». Eh bien, sur ce canevas, Barthes va créer une phrase qui serait l'équivalent, non pas lansonien, mais moderne, et qui est la suivante, Barthes l'a créée, et Mallarmé vint. Donc sur le schéma et Malherbe vint, Barthes crée et Mallarmé vint, pour montrer peut-être, c'est un peu la lecture que je vous propose, que les deux attitudes, au-delà de toutes les différences, sont assez semblables. La même idée, c'est au fond de renvoyer à une historicité avec un écrivain qui sert de charnière. Vous l'avez compris, je ne veux pas être plus long et plus lourd. Il me semble que le « et Mallarmé vint » n'est pas une création de Barthes. Il me semble qu'on la lit dans « Pour un Malherbe » de Ponge. Mais l'idée m'est venue trop tard pour que je le vérifie avant cette communication. Donc, si vous voulez, le pendant « et Mallarmé vint » et « Malherbe vint » n'appartiennent pas qu'à Barthes, mais en tous les cas, ils traduisent la volonté de mettre sur le même plan deux manières d'envisager la littérature qui ont au moins un point commun. C'est peut-être une même conception du temps. Pour cela, maintenant, je voudrais faire une petite digression sur un sujet que j'ai abordé en d'autres lieux et qui était, au fond, la querelle des nouveaux philosophes. Vous me direz, que vient faire cette querelle ici? Vous allez voir un peu pourquoi j'ai convoqué cette affaire Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et Maurice Clavel. Vous savez ce dont il s'agit. En 79, un certain nombre de philosophes, plus anciens, Clavel ou plus jeunes, Lévy et Glucksmann, s'en prennent violemment au marxisme, au communisme, et n'attaquent pas simplement Staline, mais font remonter les mots de l'URSS à Lénine. Vous imaginez le scandale que cela a pu faire dans le monde intellectuel français. Et Barthes a soutenu Bernard-Henri Lévy et La barbarie à visage humain, vous savez, ce livre qui a fait beaucoup couler d'encre. Alors, on a reproché à Barthes d'avoir soutenu une philosophie de comptoir, une philosophie sans envergure, et Barthes a malgré tout tenu bon. Parce que je crois que ce qui l'intéressait dans le livre de Lévy, c'est une certaine distance commune aux deux hommes à l'égard d'une philosophie de l'histoire. Cette philosophie de l'histoire vectorisée dont je vous parlais il y a un instant. Je vous relis des passages de Barthes commentant le livre de Lévy. J'ai eu un rapport très personnel, c'est Barthes qui parle, aux idées que vous énoncez. La plupart, vous le savez, me sont trop proches. En gros, celles qui ont trait à la crise de la transcendance historique. Je voudrais bien retenir avec vous cette expression, la crise de la transcendance historique. Et Barthes insiste, il parle de la crise de la transcendance historique, il manifeste, je le cite encore, un certain pessimisme historique, et encore une nouvelle citation, une mise à distance critique de l'histoire. Bref, ce qui se joue là, dans notre littérature, dans la lettre à Bernard-Henri Lévy, c'est, au fond, un éloignement de Barthes des philosophies de l'histoire. Pour lui, il n'y a plus d'adhésion à ce qu'il appelle une transcendance historique, qu'elle soit marxiste ou qu'elle soit d'une autre obédience, qui montrerait que l'histoire va quelque part. L'histoire de la littérature, l'histoire des hommes, l'histoire des idées, allait, emportée par les grands récits dont parle Lyotard, vers un but, la société sans classe, le triomphe du capitalisme, vous appelez cela comme vous voulez, mais c'est toujours des pensées vectorisées de l'histoire. Alors je crois profondément que Barthes sort de cette pensée de l'histoire. Il ne croit plus en une philosophie de l'histoire, il ne croit plus en un siècle, en un temps orienté et vectorisé, qu'il s'agisse de la littérature ou qu'il s'agisse de la philosophie. Et c'est dans ce contexte-là, j'avais déjà dit cela dans d'autres lieux, je me répète un peu, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la fameuse phrase « Tout d'un coup, il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne ». Ça ne signifie pas que Barthes est devenu réactionnaire, qu'il est devenu anti-moderne ou qu'il est devenu conservateur. C'est qu'il ne veut plus penser avec la philosophie de la modernité, c'est-à-dire une philosophie orientée du temps. Pour Barthes, en 76 ou en 79, on ne sait pas où on va. Ce qui compte, c'est toujours la temporalité, mais ce qui compte, c'est l'instant présent. Et le devenir est à écrire et le passé est à relire, si on en veut, mais en aucune manière, on ne peut avoir le sentiment d'un destin tout tracé. Donc, voyez-vous, j'ai fait une longue digression avec Lévy, et je crois que notre littérature renvoie à cela. Barthes écrira une littérature, une histoire de la littérature qui ne sera pas lansonienne, qui ne sera pas non plus moderne, qui ne sera pas une histoire de la littérature orientée avec des précurseurs qui iront jusqu'à une plaque tournante Malherbe ou Mallarmé et qui sera appelée, cette littérature, à tirer les conséquences de ce moment crucial et fondateur ou refondateur. Pour Barthes, il n'y a plus de pensée tendue de l'histoire, il faut faire autre chose. Et si l'on écrit une histoire de la littérature, elle devra être d'une manière totalement différente. Et la réponse pour savoir ce que c'est que cette manière totalement différente, c'est de ne pas oublier que Barthes a utilisé toute une série de fiches empruntées, je vous l'avais dit tout à l'heure, au banquet de Platon. Et c'est là que l'importance de ces fiches va apparaître, parce que ces fiches sur Platon vont apporter ce que pourrait être une nouvelle histoire de la littérature qui ne soit ni lansonienne ni moderne. Alors, Barthes le dit très clairement, ce qu'il veut défendre, c'est une histoire non philologique. Le terme revient souvent chez lui. La philologie est très souvent l'ennemi, et la philologie appelle une non-philologie ou une contre-philologie. Alors, il donne deux exemples d'une histoire non-philologique, c'est-à-dire, au fond, une histoire qui rompt avec le contexte, et c'est-à-dire la règle essentielle de l'histoire littéraire telle qu'on l'a pratiquée. Premier acte contre-philologique, nous dit Barthes, en utilisant les fiches de Platon, c'est qu'il ne va pas séparer les différents discours amoureux. Il va considérer que Alcibiade, Socrate tiennent tous un moment, un morceau du discours amoureux comme un seul et même discours. Et Barthes le dit très clairement dans une fiche, je vais fondre, coudre, rapprocher tous ces discours comme j'ai considéré les 11 tragédies de Racine comme une seule et même tragédie. C'est la même attitude, tous les discours de l'amour tenu dans le banquet ne constitueront qu'un seul discours amoureux, comme les 11 tragédies de Racine ne constituent qu'une seule tragédie dont on peut tirer la réalité en empilant en quelque sorte les 11 tragédies les unes sur les autres. Ça, c'est le premier acte contre-philologique. Deuxième acte contre-philologique, il est de donner toute son importance à la dimension érotique du texte. Alors, pas simplement, parce que on quand même, personne ne l'avait jamais contredit, la dimension érotique de l'amour. Ça, quand même, même les plus étourdis y avaient pensé. Non, ce que dit Barthes, c'est l'énonciation, l'interlocution entre les personnages qui est profondément érotique, et pas simplement le discours. Il y a tout un jeu de séduction qui se joue entre Alcibiade, Socrate, etc. Et Barthes dit, tout cela est matérialisé par l'importance et la place des lits. Lit, pour parler, coucher et autre chose. Voici ce que dit Barthes à propos des lits dans le banquet. Je le cite. « Le fait de se coucher pour manger, tout un marivaudage des places, comme aujourd'hui, mais accru par la connotation du lit, égale sémantème de sensualité. On voit bien ce qu'apporte à la lecture de ne pas lire selon la vérité historique philologique. Tout simplement, ici, une vérité érotique. C'est le contresens, gage de jouissance. » Contre le censeur plat qui dira « Mais non, voyons, aucune intention érotique, vous savez bien que… » etc. Le « etc. » est de Barthes. Donc Barthes, au fond, en valorisant la dimension érotique des positions énonciatives et des positions cubitales, j'ai envie de dire, eh bien, Barthes pense faire un acte contre l'histoire littéraire traditionnelle, un acte contre-philologique, on l'aurait accusé à un helléniste, de contresens. Or, il me semble que, d'une certaine manière, Barthes est injuste avec l'histoire littéraire et avec les lectures que l'on peut faire de Platon. Parce que dire que le lit, chez les Grecs, puisse avoir une dimension érotique et que la position des lits et des énonciations dans le banquet revêt incontestablement une position et une dimension érotique ne me paraît pas un contresens et ne me paraît pas une fausseté historique. Je crois qu'on peut raisonnablement lire le texte de Platon dans son contexte et déduire une dimension érotique de ce texte. Ça ne me paraît pas un contresens moderne. Autrement dit, l'adversaire, ce n'est pas le contexte historique, c'est une certaine manière de faire parler le contexte historique, c'est-à-dire, au fond, une manière extraordinairement moralisatrice. Relisez le Lagarde et Michard. J'en ai fait son éloge, mais relisez-le. La sexualité, elle n'est pas très présente, et surtout les sexualités un peu déviantes. Il y a un article magnifique, il y a une entrée magnifique sur Gide. On ne peut pas faire l'économie de Gide, la grande langue classique. Ses mœurs sont à peine évoquées, d'une manière extraordinairement voilée. Je crois que c'est cela qu'attaque Barthes. Ce n'est pas le contexte historique. On ne peut pas lire son contexte historique et, historiquement, le banquet est érotique. Je le crois, je ne suis pas helléniste, mais enfin, je ne crois pas me tromper. Non, ce qu'il critique, c'est le déni de sexualité qui était largement celui à l'œuvre dans les manuels scolaires. Alors, on parlait d'amour. On parlait de désir, même pas désir, c'est déjà un peu dangereux. On parlait d'amour, c'est vague, c'est vaste, et cela permet de tout comprendre ou de ne rien comprendre. Donc, ce à quoi s'en prend Barthes, ce n'est pas tant le contexte historique, mais une certaine lecture puritaine, pudibonde du contexte historique. Et on remarque que si Barthes insiste beaucoup sur la sexualité, c'est tout simplement parce qu'il est un être humain et que c'est un bien commun de tout un chacun, et qu'il insiste aussi sur l'homosexualité qui le concerne plus, bien évidemment, au premier chef. Autrement dit, une nouvelle histoire de la littérature ne renoncera pas au temps, bien évidemment. Elle ne cherchera certainement pas un temps vectorisé, elle va valoriser un temps qui sera forcément le présent du lecteur. Le centre, ce ne sera plus Malherbe, ce ne sera plus Mallarmé, ce sera moi. Moi, vous m'avez compris, hein, en tant que lecteur, hein, qui peut être le prototype de n'importe qui. C'est à partir de moi que je vais lire, c'est à partir de mon présent, c'est ici et maintenant, dans une démarche qui n'est pas loin d'une phénoménologie. Autrement dit, une histoire de la littérature telle que Barthes pouvait l'arriver serait une histoire qui partirait du sujet lecteur, qui partirait de son désir, de son émotion, et qui partirait donc de son propre présent, et qui n'envisagerait plus l'histoire comme ont pu le faire Élançon et les modernes. Et puis, le projet semble tomber dans les sables, se perdre, et d'une certaine manière, on pourrait en rester là. En fait, non. Vous avez lu l'œuvre de Barthes, vous avez entendu ce que j'ai dit à propos des fiches. Ce projet de notre littérature va ressurgir un tout petit peu plus loin et va revenir à la fin de la vie de Barthes. Et vous allez voir qu'il va revenir en concurrence avec Vita Nova. Donc, et ça, c'est la grande trouvaille que je voudrais apporter. Elle est sans mérite, hein, il suffisait d'aller voir dans les fiches. C'est qu'au fond, Barthes va hésiter à la fin de sa vie entre Vita Nova et une histoire de la littérature. C'est ce que montrent les fiches d'une façon très claire. Alors, je voudrais vous montrer cela. D'abord, la résurgence de cette histoire de la littérature, qui pourrait s'appeler notre littérature ou autrement, et qui serait une littérature à partir de moi et de mon sentiment, de mon ressentiment, de mon affect. Vous connaissez des passages célèbres de la conférence « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Voici le passage, je le relis pour le plaisir. « Le moment de vérité, à supposer qu'on accepte d'en faire une notion analytique, impliquerait une reconnaissance du pathos au sens simple, non péjoratif du terme, et la science littéraire, chose bizarre, reconnaît mal le pathos comme forme de lecture. Nietzsche, sans doute, pourrait nous aider à fonder la notion, mais nous sommes encore loin d'une théorie ou d'une histoire pathétique du roman. » Voilà, au fond, tout ce que nous savions sur l'histoire, le désir d'une histoire pathétique du roman était préparé par les fiches de notre littérature. Une histoire pathétique, c'est une histoire qui se vit ici et maintenant, au sein même du sujet qui lit et qui réagit. Je vous donne des éléments que vous n'avez pas lus, puisque ce sont des fiches. Barthes, dans une fiche de juillet 79. Une histoire ? Non. Ce serait anti-hégélien. Alors Barthes dit, je voudrais faire quelque chose d'anti-hégélien. Hein. Toujours la rupture avec un temps et une philosophie de l'histoire. Plutôt une histoire morcelée, par thème, une histoire en miettes, histoire naturelle, sauvage, de la littérature française. Et il faut bien noter qu'elle ne serait pas hégélienne, c'est-à-dire vectorisée une fois de plus. Dans le grand fichier, Barthes fait état d'une conversation avec Solers. Nous parlons de Chateaubriand, de la littérature française, puis du Seuil, avec lui toujours euphorie, idées, confiance et excitation de travail. Il enflamme l'idée que j'avais eue d'écrire une histoire de la littérature française par le désir. Alors c'est plus pathétique, c'est par le désir, mais le rapprochement est grand. Autre fiche, toujours du grand fichier, traiter uniquement les épisodes de romans, de livres qui me remontent à la mémoire comme des moments jubilants, fascinants, chéris. Exemption de toute référence, vérification, consultation. Anti-philologie. Une fois encore, hein, cette volonté de rompre avec d'autres histoires littéraires. Mais on voit bien que le projet de notre littérature n'était pas mort et qu'il faisait comme ça résurgence de temps en temps. Et ce que je vous disais au fond, c'est que ce sujet-là, et ça c'est peut-être la nouveauté finale avec quoi je vais bien sûr terminer, puisque c'est final, pour vous dire qu'au fond, ce projet-là a été en concurrence avec Vita Nova. Jusque dans les dernières semaines de sa vie, Barthes a hésité entre Vita Nova, nous le savons bien, et autre chose qui aurait été ce projet d'une histoire pathétique. Voici là des preuves indubitables dans les fiches. Toujours une conversation avec Solers, racontée le 26 août 79. Me voilà emballé par ce projet, c'est toujours le projet d'une histoire pathétique, hein, qui m'apparaît lumineusement propre à dissiper l'actuel pataugeage. le pataugeage, hein, c'est la grande difficulté qu'a Barthes d'écrire Vita Nova, ce roman si complexe, hein, qui a eu de nombreuses tentatives, a connu de nombreuses tentatives. Certaines ont été publiées dans les œuvres complètes. Tiphaine Samoyo en a donné d'autres aspects dans sa biographie. Barthes était vraiment dans la marinade, hein, pour employer un terme de Flaubert, et il avait peut-être une sortie de secours qui aurait été cette histoire littéraire. Autre fiche, 27 août 79. Vita Nova, pour faire un roman. Je crois que je vais faire un roman, mais in extremis, il y a rupture d'œuvre. C'est une histoire de la littérature que je vais écrire. Alors là, la substitution est explicite, hein, vous me croyez, après avoir entendu cette phrase-là. Et donc Barthes va hésiter dans les dernières semaines de sa vie, dans les derniers mois de sa vie, entre ces deux voies. Soit le roman, Vita Nova, ou un roman, une forme de roman, soit une histoire pathétique de la littérature. Et la mort est venue trancher, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tranché du tout. Hein, nous ne saurons jamais ce qu'il aurait fait. Je voulais terminer en essayant de supputer chacune des chances de chacun des deux projets. Le roman, l'histoire pathétique. Qui pouvait l'emporter? Qui pouvait être le plus séduisant? Et bien sûr, je n'aurai pas de réponse. D'abord, il est certain que l'œuvre finale, ou l'œuvre qu'il était en train d'écrire, aurait fait une part fondamentale à la subjectivité. C'est une évidence. Pathétique ou par le roman. Mais cette subjectivité aurait été profondément construite contre un défaut dont Barthes se gardait constamment, qui était l'égotisme. C'est-à-dire, au fond, le repli sur les petites choses de sa vie. Hein, le misérable tas de secrets dont a parlé Malraux, ou même pas des secrets, mais des petites choses de la vie quotidienne. Et vous savez que cet égotisme, eh bien, s'incarne pour Barthes dans les défauts du journal intime. Donc, la subjectivité sans égotisme. Qui a le plus de chance? L'histoire pathétique ou le roman? Ben, je dirais qu'on ne peut pas trancher. Hein, une histoire pathétique repose sur une forme de subjectivité, mais pas d'égotisme, puisque immédiatement on parle de la littérature, donc d'un texte beaucoup plus général. Si l'on est ému à la mort de la grand-mère dans Proust, j'exprime une émotion personnelle, mais je parle de Proust, et dans ces cas-là, je me tais et ne parle de moi que de façon indirecte. Le roman, parce qu'il est fiction, le roman, bien évidemment, lui aussi repose sur une subjectivité, mais dépasse l'égotisme, puisque par définition, il y a des personnages. Donc, à égalité, les deux solutions. Deuxième grande exigence de l'œuvre finale, elle aurait été un équilibre, par le biais du récit, entre continu et discontinu. On retrouve cela, cette exigence, constamment dans l'œuvre de Barthes. Prenez les deux grands textes finaux, que sont le fragment d'un discours amoureux et la chambre claire. C'est deux manières d'équilibrer le discontinu et le continu. Fragment d'un discours amoureux se présente comme un ouvrage discontinu, bien évidemment, c'est une série de figures, mais si on le lit attentivement, il y a une grande unité, c'est le discours amoureux, et il y a une tension, après tout, il y a une histoire qui nous est racontée, qui nous conduit de la première rencontre à l'union, à une sorte de happy end, presque heureux. Inversement, la chambre claire est un ouvrage du continu, c'est une quête qui avance, une quête quasiment romanesque, mais constituée d'autant d'éléments et de chapitres autonomes qui insufflent une part de discontinu dans le continu. Donc sans cesse équilibrer les deux. Qu'est-ce qui aurait mieux équilibré le continu et le discontinu? L'histoire pathétique ou le roman? Dans les deux cas, on est obligé de renvoyer les deux formes d'expression dos à dos. Prenons le cas de l'histoire pathétique. Elle aurait été discontinue puisqu'elle aurait été fondée sur des moments d'émotion, sur des affects. Donc il y aurait eu comme quelque chose comme une bouffée qui aurait défié une forme de construction. Mais en même temps, il s'agit d'une histoire de pathétique. Donc il y aurait eu un ordre malgré tout. Et dans les deux cas, on aurait pu équilibrer continu et discontinu. Quant au roman, tous les essais que Barthes a pu faire de roman, on voit bien que lui aussi voulait associer un continu, avec une sorte de quête là aussi, et une forme de discontinu, avec des textes très variés d'écriture, une sorte de piquilia. Hein. Barthes emploie très souvent la métaphore des hors-d'œuvre grecques, hein, pour désigner le type d'écriture. Donc là encore, on ne peut pas savoir si Barthes aurait choisi une forme plutôt qu'une autre. Reste le dernier élément qui peut partager les deux voies, c'est le statut de la fiction. Barthes aurait-il accédé ou non à la fiction? Alors, que faut-il entendre par fiction? J'ai quasiment terminé. On peut gloser le mot fiction par deux autres mots. opposées et qui ouvrent des voies assez différentes. Le premier, c'est imagination, et le second, c'est imaginaire. Aurait-on eu une fiction qui allait du côté de l'imagination ou une fiction qui serait allée du côté de l'imaginaire? Alors, je ne vais pas donner de sens compliqué à ces mots-là. L'imagination, c'est la capacité d'inventer un univers, comme peut le faire un romancier, loin de nous. Quand Marguerite Yourcenar réinvente Adrien, elle est dans l'imagination et la fiction, même si elle a une documentation, bien évidemment. C'est ça, l'imagination. C'est inventer un univers qui est loin de nous. C'est la qualité basique, j'ai envie de dire, d'un bon romancier, en tous les cas d'un romancier du romanesque. L'imaginaire, c'est autre chose. L'imaginaire, c'est une manière de figurer le monde et de se représenter. C'est l'image, c'est la représentation que l'on a de soi et du monde. D'une certaine manière, il y a une part de fiction, c'est ce que nous dit Barthes, mais il n'y a pas une invention aussi profonde que dans l'imagination. Si je fais mon portrait, je suis dans l'imaginaire. Si je décide de créer un roman dans lequel mon personnage est une jeune femme de 20 ans, je suis dans l'imagination. Barthes aurait-il trouvé la voie de l'imagination ou celle de l'imaginaire? Serait-il resté dans une représentation de soi ou aurait-il réussi à aller au-delà de soi-même pour créer des personnages? On peut le synthétiser autour d'une phrase toute simple. À quelle distance de moi-même suis-je capable de me tenir? À quelle distance de moi-même suis-je capable de me tenir? Si je me tiens un peu en recul de moi-même, je suis dans l'imaginaire, je suis dans une histoire pathétique de la littérature. Si je me tiens beaucoup plus loin que moi-même, de moi-même, je suis dans la fiction romanesque, je suis véritablement dans la création de personnages. Barthes aurait-il choisi l'imaginaire ou l'imagination, on ne le saura pas. Mon avis de lecteur qui a beaucoup pratiqué l'œuvre de Barthes, c'est que je ne pense pas que Barthes avait le génie du roman, au sens traditionnel du terme. Je crois qu'il aurait inventé une autre forme d'essai, sans doute, une autre manière de penser l'imaginaire, mais je n'en sais absolument rien. Donc, ce que je peux dire pour terminer, c'est que les fiches de Barthes nous renseignent sur un projet magnifique qui aurait pu servir de rival au roman. Et je ne sais pas s'il faut le dire malheureusement ou heureusement. Alors, malheureusement pour la mort de Barthes, heureusement pour le plaisir que nous avons de disserter à perte de vue sur les intentions des écrivains, nous n'en saurons pas davantage. Et c'est sur ce constat d'incertitude et de méconnaissance que je voudrais terminer en vous remerciant.
Merci.